économiste et directeur de Lafayette Group et également de New York, Mohamed Boyd, professeur d'histoire à Manhattan College, tous les trois observateurs de la scène politique américaine. Alors je démarre avec vous, Claude. Un ancien président devant la justice pour appel à l'insurrection, entre autres charges possibles, ce serait quand même historique. Pourquoi, selon vous, la commission a finalement décidé de recommander des poursuites pénales contre Donald Trump?
Vraiment, il était difficile de ne pas le faire. La commission a siégé pendant 18 mois, a interrogé plus de 1000 témoins et a examiné plus d'un million de documents. Et à l'issue de tous leurs travaux, ils se sont bien rendus compte que pointer la responsabilité de l'assaut contre le Capitole du 6 janvier vers Donald Trump. Donc, ils estiment avoir réuni un dossier extrêmement solide qu'ils peuvent envoyer maintenant au département d'État avec la recette que ce département de la justice entame des poursuites pénales pour contre Donald Trump.
Mais cette commission peut-être avait peut-être quelques difficultés parce qu'il fallait ne pas apparaître très politique également, puisqu'il s'agit d'un ancien président.
Oui, et là, il faut dire que les Républicains ont un argument assez valide, dans ce sens que cette commission, c'est vrai, confond toujours, puisqu'elle n'a pas encore été dissoute, sept démocrates contre deux républicains. Alors, il faut expliquer que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avait demandé aux républicains de fournir un nombre équivalent de républicains pour siéger à cette commission. Mais malheureusement, le chef de la minorité républicaine, qui va essayer de devenir maintenant le président de la Chambre, a décidé, parmi les cinq républicains qui devaient se mettre, d'en choisir deux qui étaient à l'intérieur et donc obstruction constamment aux travaux de la commission.
D'accord. Alors, nous avons Jean-François Seznec qui nous a rejoint. Alors, Jean-François Seznec, il y avait, semble-t-il, un débat interne au sein de la commission sur la pertinence ou non de recommander des poursuites contre Donald Trump. Finalement, tous les membres ont voté en faveur de ces recommandations. Qu'est-ce qui a été, selon vous, déterminant dans cette décision?
Je pense qu'ils ont décidé que, comme de toute façon les démocrates allaient perdre le pouvoir l'année prochaine au Congrès et qu'ils n'arriveraient pas à finir quoi que ce soit, qu'ils ont préféré faire un gros coup, si vous voulez, et montrer qu'ils pouvaient peut-être faire du mal à une candidature possible du président. Je pense que tout le monde sait que la commission va être certainement arrêtée dès que les républicains vont prendre le pouvoir. Donc ils ont essayé de faire le maximum tout de suite.
Mais est-ce que cela ne va pas un peu justifier l'argument des pro-Trump que c'est plutôt une cavale contre Donald Trump, disons une sorte de chasse aux sorcières?
Oui, dans un sens, c'est vrai. Dans un sens, c'est vrai. Ils essayent de faire le plus de dommages possible à la candidature de Trump, mais il faut que ce soit fait. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un problème où toutes les solutions sont mauvaises, si vous voulez. Et je pense que ça va être difficile pour les républicains de nier le fait qu'il y a quand même un problème fondamental avec ce qu'avait fait le président Trump à l'époque. Mais d'un autre côté, les républicains plutôt extrêmes essayent de montrer qu'effectivement, il y a eu une sorte de chasse aux sorcières, mais qui peut-être, au fond, finalement, il y a peut-être une sorcière, vraiment.
Alors, Claude, l'ancien vice-président Mike Pence, que beaucoup d'analystes, en tout cas, et d'acteurs politiques des deux côtés, présentent comme étant celui qui a, entre guillemets, sauvé la démocratie américaine en tenant tête à Donald Trump lors de la certification des résultats. Mike Pence, donc, estime qu'on ne devrait tout de même pas poursuivre l'ancien président. C'est une position que vous comprenez ? C'est une position plutôt politique ?
Il faut bien savoir que Mike Pence, sans le dire encore ouvertement, sans jeter son chapeau dans l'arène, est tout de même l'un des candidats potentiels dans le cas où finalement Trump ne réussirait pas à être le candidat républicain en 2024. Donc sa position est un peu difficile. Mike Pence a fait une chose absolument extraordinaire dans sa vie. Il a été beaucoup critiqué par les démocrates, bien sûr. Mais il faut tout de même reconnaître que c'est lui qui, comme vous le disiez, a sauvé d'une certaine façon la démocratie américaine. Et j'estime que malgré cela, les démocrates sont toujours là et ils sont pas trop assez critiques de Mike Pence. Je pense qu'on devrait tout de même lui reconnaître que le pays lui doit beaucoup. Ceci dit, dans les interviews qu'il donne, il dit oui, ce que Trump a fait, c'est pas bien, mais enfin, ne critique jamais vraiment trop à fond, si vous voulez. Donc, il reste tout de même d'une certaine façon et en dépit de tout ce que Trump a fait, parce qu'il l'a menacé pratiquement au cours de l'assaut, il reste tout de même un peu attaché.
D'accord. Alors, Jean-François Sesnec, mais tout cela, est-ce que cela ne pose-t-il pas le problème du traitement des hautes personnalités par rapport aux citoyens lambda? C'est un peu plus compliqué de vouloir demander à des personnalités de rendre compte. C'est un peu, en tout cas, ce que beaucoup voient à travers tout ça.
Oui, certainement. Il est certain que le président Trump a peut-être 30% de la population qui croit à peu près tout ce qu'il dit. Personne ne veut vraiment se mettre le 30% de la population à dos. Et je pense que dans un sens, pour répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, je pense que Pence, lui, ne veut pas se mettre la majorité des républicains à dos. Il veut bien dire du mal du président, mais il ne veut pas non plus que les gens commencent à le détester à fond. Mais d'un autre côté, il est certain que les gens haut placés, bien sûr, ont moins de problèmes, si vous voulez, avec la justice. Mais le système est tel que, pour le moment, le département de la justice n'a pas encore vraiment commencé à faire son travail, si vous voulez, là-dessus. Enfin, pas officiellement, en tous les cas. Donc, pour le moment, il y a une certaine... les personnalités importantes ont plus de facilité à ce niveau-là, l'ancien président en particulier. Mais d'un autre côté, ça pourrait devenir beaucoup plus grave très bientôt.
Mais en même temps, Jean-François Sesnec, peut-être c'est une question que je vais vous poser à tous les deux. Où se situe un peu la frontière entre le politique et le judiciaire ? Quel est un peu le bien fondé d'un procès contre un ex-président ? Les implications politiques sont vraiment inévitables.
Oui, absolument. C'est totalement inévitable. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un problème où toutes les solutions sont mauvaises. Il n'y a pas vraiment de solution facile. La justice, s'il doit y avoir justice, ça va être une justice qui va être vue par un certain pourcentage de la population comme étant vraiment, comme vous disiez, une chose forcière, effectivement. Et je ne pense pas que, quels que soient les résultats, je ne pense pas qu'on verra les choses, ces gens-là verront les choses différemment. Et ça va créer un clivage énorme dans la société, qui existe déjà, mais ça va le devenir encore plus et beaucoup plus officiel.
Et Claude, est-ce que l'absence de l'ancien président dans ce processus ne remet pas un peu en cause la légitimité des conclusions de cette commission ?
D'abord, je dirais que je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-François Cesnec. Il n'y a pas de bonne solution. Et comme vous le dites, c'est vrai que ça sera interprété en fonction de la décision du ministère de la Justice comme une décision politique, même si en fait, en réalité, c'est une décision judiciaire. Au ministère de la Justice, Garland, c'est extrêmement délicat parce que quoi qu'il décide, personne ne sera entièrement satisfait. Oui, les démocrates, bien sûr, seraient ravis que les poursuites aboutissent. Mais n'oublions pas que Trump conserve tout de même 40% des républicains. Hein. C'est un bloc solide. Ça ne fera qu'aggraver, si vous voulez, la division qui règne dans le pays. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-François. Je vois mal la décision de Darmon la paix dans le pays, hein, c'est ça. Ceci dit, le ministre il y a quelques mois, il en fait l'expérience, et s'il a la preuve suffisante, effectivement, de la sécurité du capital, il est important.
D'accord. Alors, on va lire quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Archiduc Théodore et Tandja Menaï nous dit que les poursuites pénales contre l'ancien président américain Donald Trump peuvent avoir un effet négatif sur sa candidature et peuvent ruiner sa carrière politique. Yao Marcelin Kofi nous dit, lui il est à Abidjan, il écrit que dans un état de droit comme les États-Unis où l'impunité n'est guère admise, c'est en toute logique que Donald Trump, s'il est reconnu coupable de ses infractions, réponde de ses actes devant une juridiction. Et puis Étienne Damas est à Liège en Belgique, il nous dit que c'est le but d'écarter Donald Trump par la soi-disant gauche américaine et ses lobbies antidémocratie. En plus, les démocrates, selon lui, ont la justice dans leur poche. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités au téléphone ici à Washington. Claude Porcella, journaliste, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et sur Skype depuis Annapolis dans le Maryland, Jean-François Cesnec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors, dites-nous, je vais reprendre avec vous, Claude Porcella. La commission conclut que Donald Trump est inapte à occuper de nouvelles fonctions publiques. Est-ce que cela ne pourrait pas être interprété par ses partisans comme une volonté carrément d'écarter un adversaire politique?
Bien, écoutez, c'est ce que Donald Trump dit, n'est-ce pas? Il essaie de torpiller ma candidature, mais Vous savez, si on est honnête et qu'on regarde les faits, il est difficile de ne pas croire que Donald Trump a joué un rôle primordial dans cet événement sans précédent. De l'autre côté, si on ferme les yeux, si on est un partisan à fond de Donald Trump et qu'on refuse de croire toujours qu'il n'a pas été élu, qu'on lui a volé l'élection, c'est impossible de convaincre des gens qui croient fermement que la victoire de Donald Trump a été volée par les démocrates. Donc, je vois mal comment on peut résoudre ce problème.
Surtout Jean-François Cesnec, que l'ancien président a annoncé sa candidature pour 2024. En même temps, s'il n'y a pas de poursuite, d'autres pourraient reprocher à la justice de tenir un peu compte de son statut d'ancien président et de personnalité politique, personnalité publique. Monsieur Cesnec, est-ce que Monsieur Cesnec est avec nous encore?
Oui.
Allez-y.
Vous m'entendez là maintenant?
Oui, absolument, allez-y.
Très bien. Oui, ce que je trouvais, si vous voulez, pour répondre indirectement à votre question, je pense que ce qui est intéressant, c'est que en fait, il y a un effort dans le Parti républicain pour diviser le Parti républicain et renforcer les centristes, si vous voulez, du Parti républicain. Parce que la décision qui a été prise, et par exemple les commentaires de Madame Cheney, qui est une femme que personnellement j'admire beaucoup, mais qui essaye de montrer que à son propre parti, si vous voulez, que Trump n'est pas capable d'avoir la direction du parti. Donc les conservateurs veulent vraiment avoir plus de contrôle et, si vous voulez, en profiter pour éliminer les extrêmes droites du parti. Et malheureusement, pour le moment, les extrêmes droites du parti gagnent beaucoup.
Mais, surtout pour les primaires.
Oui, absolument, pour les primaires. Et on a vu ça il y a quelques mois, mais maintenant, ça va être très important pour les prochaines élections dans 2 ans. Donc, on a 2 ans, si vous voulez, les républicains ont 2 ans pour essayer de diminuer les républicains centristes, ont 2 ans pour essayer d'éliminer les extrêmes. Et je pense qu'on peut lire, si vous voulez, les conclusions de la commission dans cette optique, et effectivement, ça va dire le fait que le président serait vu comme presque un criminel, si vous voulez, faciliterait la tâche des centristes.
D'accord. Alors, Mohamed Boyd, professeur d'histoire à Manhattanville College, nous a rejoint dans la discussion. Alors, professeur Mohamed Boyd, quelles leçons, ces recommandations de la commission parlementaire peut-on en tirer, en tout cas pour ce qui est de la démocratie américaine?
D'une part, c'est une démocratie où personne n'est vraiment pas au-dessus de la loi, comme on dit. Deuxièmement, qu'il y a des entrées différentes pour la faire fonctionner, et pas seulement la voie des urnes, mais aussi utiliser les enquêtes parlementaires d'une façon aussi novatrice pour essayer de marquer, évidemment les gens diront, des points politiques, mais aussi pour un tout petit peu épurer le jeu démocratique de ces extrêmes. Et troisièmement, créer des balises pour que la nouvelle génération peut-être se sente un peu plus concernée par ce qui se passe en politique. Et donc il y a une sorte d'appétit pour une plus grande cohésion nationale de la part des jeunes, un plus grand intérêt pour ce qui les attire, les intéresse d'une certaine façon. Donc il y a une apathie de l'électorat d'une manière générale, et cette commission peut-être va susciter avec l'intérêt qu'elle crée un certain regain d'attention pour donc le jeu politique normal.
Et ce qui est en train de se passer à Washington est historique, Mohamed Mbeki. Et comment est-ce que tout cela peut être vu par le reste du monde, notamment en Afrique, selon vous?
Ah oui, en Afrique en particulier, évidemment, ici nous voyons qu'il y a un régime présidentiel fort, mais qui est contrôlé par une assemblée législative qui a ses prérogatives et qui les assume jusqu'au bout et qui n'a pas d'état d'âme pour les assurer. Donc, un tout petit peu pour montrer que les institutions peuvent être très fortes, que quelquefois il peut y avoir des conflits ou même des différences de vision entre les différents tenants des institutions démocratiques du pays, mais qu'en fait, les gens se surveillent les uns les autres pour la bonne cause, pour que tout marche bien. Donc en Afrique, ce qui manque, c'est un peu ce levier de contrôle, cette sorte de contrepoids qui fait qu'en particulier l'exécutif, souvent se sent permis de tout faire et ensuite de ne pas donner beaucoup d'explications, sinon des communiqués longs où finalement il considère que les assemblées législatives n'ont pas beaucoup de pouvoir et ont simplement le pouvoir d'écouter ce que l'exécutif leur dit et d'exécuter ce que l'exécutif leur demande ici. Donc il y a une leçon magistrale que peut-être les institutions africaines pourront apprendre.
D'accord. Et Jean-François Seznec, pour vous, la leçon pour le reste du monde, c'est quoi?
Exactement ce que vient de dire Mohamed, c'est que en fait, ça montre au reste du monde que le système américain de tripartite en trois branches fonctionne, a des problèmes bien sûr, parce qu'il est très difficile d'obtenir l'accord de tout le monde, mais que ça fonctionne et que ça, en fait, ça protège une certaine démocratie qui a réussi à rester en existence pendant plus de 250 ans et avec un peu de chance, ça va continuer comme ça. C'est un système qui marche mal, mais c'est peut-être le moins mauvais de tous les systèmes.
D'accord. Et Claude, à une vue, disons, extérieure, vous êtes journaliste aussi, vous travaillez avec des médias étrangers. Comment tout cela peut être vu?
Je pense que ce sera un bel exemple pour le reste du monde si la justice est véritablement rendue. Comme je le disais auparavant, personne ne sera vraiment satisfait. Mais ça montre tout de même au monde que les États-Unis, comme le disaient mes deux prédécesseurs, savent, dans une situation sans précédent, tout de même, une attaque contre le Capitole, qui est le temple de la démocratie, eh bien, cela montrera que les responsables de cet assaut seront plus comme ils le méritent. Et comme le disait un des membres de la commission, il ne faut pas que le simple soldat aille en prison alors que celui qui est responsable de l'incident reste libre.
Mohamed Mbeki, il n'y en a que 30 secondes pour 2024, rapidement, 30 secondes. Qu'est-ce que vous voyez à la sortie de tout cela?
À la sortie de tout cela, s'il y a donc des actions de justice contre Trump, cela peut faciliter effectivement une montée des centristes conservateurs du Parti républicain. Au contraire, si on le laisse disons intact, ça va permettre à cette frange de monter un tout petit peu, ce qui fera l'affaire des démocrates.
En tout cas, on va suivre. Ce sera un débat pour une autre fois. C'est la fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com, sur notre page Facebook. Un grand merci à tout le monde. À très bientôt. Au revoir.